Aujourd'hui, à Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Édition spéciale consacrée aux élections de mi-mandat. Les démocrates s'emparent de la Chambre des représentants et le Sénat reste républicain.
L'idée, c'est qu'il faut apprendre de trouver les moyens de gouverner avec un gouvernement divisé.
Et nous aurons les premières réactions du président Donald Trump à suivre. Au Cameroun, les 81 personnes kidnappées ont été relâchées. Les circonstances de leur libération ne sont pas encore déterminées. Madagascar tient le premier tour de la présidentielle. 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir parmi 36 candidats, dont 4 anciens présidents. Au Mali, près de 3 ans après l'accord de paix, le processus de DDR a été finalement lancé.
C'est le lancement officiel qui a une très grande signification parce qu'il y a tous les membres des mouvements signataires de l'accord qui sont là.
Mais tout d'abord, le journal. Résultat des élections de mi-mandat ici aux États-Unis, les démocrates ont ravi la majorité à la Chambre des représentants pendant que les républicains conservent le Sénat. Ce verdict augure 2 années à venir de durs combats politiques. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le président Donald Trump, ce matin sur Twitter, s'est réjoui d'une très grande victoire. Les républicains ont renforcé leur emprise sur le Sénat. Les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. La participation a été plus forte à 47% contre 37% en 2014. Les élections de mi-mandat sont souvent délicates pour le président en place. Comme pour Barack Obama et George Bush, dans son second mandat, le parti du président américain a perdu sa majorité à la chambre basse du Congrès. C'est une nouvelle donne pour Donald Trump. Dès le 3 janvier 2019, lors de l'entrée en fonction du prochain Congrès, le président américain devra transiger avec les démocrates pour faire adopter ses lois. Les démocrates ont promis d'employer leur nouvelle majorité à la Chambre basse pour servir de contre-pouvoir. Nancy Pelosi, leader démocrate de la Chambre, a aussi promis d'œuvrer pour trouver des solutions qui nous rassemblent, car nous en avons tous assez des divisions.
Et à la suite des résultats des élections de mi-mandat, le président Donald Trump répond en ce moment aux questions de la presse. Il avait déjà affirmé la veille que le succès républicain au Sénat était une grande victoire. Le point avec Abdourahmane Dia.
Oui, Raïssa, si on peut dire ainsi, c'est une sorte de séance d'explication des résultats et pourquoi les républicains ont, selon lui, perdu la Chambre, mais surtout il a minimisé les pertes en les comparant aux élections de mi-mandat du président Obama en 2010. Au niveau de la Chambre des représentants, il dit qu'en 2010, le président Obama avait perdu 63 sièges alors que lui n'en a perdu que 27. Obama avait perdu 6 sénateurs alors que lui a renforcé le contrôle républicain au Sénat. Mais il reconnaît qu'il lui sera difficile de gouverner sans les démocrates. On va écouter Donald Trump parler de la nécessité de travailler avec Nancy Pelosi, qui pourrait reprendre son poste de présidente de la Chambre des représentants. Elle a beaucoup de mérite, elle a travaillé dur et pendant longtemps. Donc je pense qu'elle a du mérite. J'espère qu'on pourra tous travailler ensemble pour continuer à faire des résultats pour le peuple américain, y compris dans l'économie, les infrastructures, le commerce, la baisse des médicaments. Ce sont des choses sur lesquelles les démocrates veulent travailler avec nous. Je pense qu'on peut le faire et nous avons beaucoup de raisons pour le faire. Voilà donc, c'était le président Donald Trump a noté, Raïssa, le ton assez conciliant et très différent de celui qu'il avait adopté pendant la campagne. Et sur ces taxes, hein, sur ces fameuses taxes, ces impôts, il se dit toujours ouvert, mais continue à dire que, en fait, c'est toujours sous audit, donc il ne peut pas les révéler, mais qu'il se dit ouvert à les révéler. Et il a eu une toute petite prise de bec avec les journalistes, mais globalement, c'était un ton très, très conciliant.
Merci beaucoup, Abdourahmane Dia, pour ce point presse. Les Américains ont donc élu un congrès divisé. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Normalement, le parti qui oppose le président gagne dans ces élections à peu près 28 ou 30 sièges dans la Chambre des représentants. Et c'est à peu près ce que les démocrates ont achevé hier. On ne sait pas exactement, mais c'est probablement entre 28 et 35 sièges. Donc ça joue en faveur des démocrates. Aussi le fait qu'il y a une forte résistance contre le président, surtout dans les alentours des villes. Par contre, quand on parle des républicains, ils ont gagné beaucoup de sièges, 3, peut-être 4 dans le Sénat, ce qui est très important. Cela renverse la tendance historique en ce qui concerne le Sénat.
Quel avantage y a-t-il à contrôler le Sénat pour les républicains?
Alors, le Sénat est plus important dans le sens que le Sénat contrôle la nomination des positions aux États-Unis, par exemple, la position des juges. Donc, si le président Trump s'y nomme quelqu'un pour être un juge de la Cour suprême, ce sera le Sénat qui doit donner son accord.
Et pour les démocrates, qu'est-ce qu'ils gagnent en contrôlant la Chambre des représentants?
Alors, ils gagnent une chambre très importante. Il sera impossible de faire voter de législation sans l'accord de la Chambre des représentants. On peut dire que c'est un moyen d'arrêter le président. Il sera impossible d'avoir de législation que les démocrates ne veulent pas.
À quelle bataille faut-il s'attendre au Congrès avec un Sénat républicain et une Chambre des représentants démocrates?
Alors, il y aura des conflits entre les deux chambres, mais on va voir. C'est possible pour le président de négocier un peu avec les démocrates et de trouver des moyens d'avoir quelque part la législation. Le président, il peut changer un peu son cours. Il peut essayer de trouver des moyens de travailler avec les démocrates sur quelques questions.
Quel genre de moyens? Des concessions qu'il va demander aux démocrates?
Ce sera nécessaire pour les démocrates, pour les élections de 2020, de démontrer qu'il peut gouverner. Ça, c'est important pour eux. Il ne peut pas seulement dire « nous sommes contre ce que vous voulez ». Il doit au moins donner l'impression qu'il veut travailler avec le président.
Quel est l'impact sur les deux prochaines années pour Trump en tant que président?
C'est pas tout à fait irrégulier. Obama l'a fait pendant 6 ans. Donc c'est difficile, mais c'est le système américain qui donne la possibilité d'avoir, si vous voulez, un gouvernement qui est divisé. L'idée, c'est qu'il faut apprendre de trouver les moyens de gouverner avec un gouvernement divisé.
Donc c'était le professeur de sciences politiques James Caesar, joint dans l'État de Virginie. Et autre fait notable, jamais autant de femmes ni de femmes issues de minorités n'ont été élues au Congrès. La jeune hispanique de 29 ans, Alexandria Ocasio-Cortez, a été élue à la Chambre des représentants et devient la plus jeune membre. La démocrate du Kansas, Sherris Davids, est devenue la première amérindienne au Congrès. Ayanna Pressley, élue démocrate de Boston, est la première femme noire à représenter le Massachusetts. Et pour finir, Ilhan Omar et Rashida Tlaib, respectivement du Minnesota et du Michigan, sont devenues les deux premières femmes de confession musulmane élues à la Chambre des représentants. Pour cette dernière, le point avec Kabadou.
Ilhan Omar dans le Minnesota et Rashida Tlaib dans le Michigan sont devenues les premières femmes de confession musulmane à être élues à la Chambre des représentants. Les deux démocrates prônent une politique progressiste avec un meilleur accès à la santé et aux études. Ilhan Omar a commencé son discours de victoire avec un salam alaikum. L'américano-somalienne de 36 ans succède à Case Ellison, le premier élu noir et musulman au Congrès. Elle a également parlé des immigrants qui venaient en Amérique en quête d'une vie meilleure et qui rencontrent trop souvent l'intolérance et la haine. Elle a fui la guerre en Somalie pour s'installer dans le Minnesota avec sa famille à l'âge de 17 ans. Par la suite, elle s'est engagée dans la vie locale et la défense des droits humains. Rashida Tlaib, 42 ans, a été élue dans une circonscription du Michigan où le Parti républicain n'avait pas investi de candidat. Née aux États-Unis de parents palestiniens, elle a dit sur une chaîne américaine « Je suis candidate à cause des injustices et parce que mes garçons s'interrogent sur leur identité de musulmans ». Ce sont deux visages qui vont s'installer désormais dans le paysage politique américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et pour l'actualité sur le continent africain, au Cameroun, libération de 79 otages, parmi lesquels 78 élèves et un chauffeur. Tous ont été présentés à la presse à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, là où ils ont été enlevés il y a 48 heures dans l'enceinte d'un établissement secondaire confessionnel en zone anglophone. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
L'armée camerounaise affirme avoir mené de bout en bout l'opération ayant abouti à la libération des 79 premiers otages. Les preneurs d'otages ont été pris au piège après avoir été localisés sur renseignements et écoute des conversations téléphoniques, a précisé le colonel Didier Badiek, porte-parole du ministère de la Défense. Notre dispositif a retrouvé les otages à l'abandon. À Bafout, localité située à 24 km de Bamenda, a mentionné le colonel Badiek dans une note d'information. Pour sa part, Samuel Fonki, modérateur de l'église presbytérienne camerounaise, tutelle du collège où l'enlèvement a été perpétré lundi dernier, a expliqué, je cite, « Nous avons retrouvé les otages dans la dépendance de l'église à Bafout après avoir obtempéré à la principale demande des ravisseurs. Ils nous ont demandé de fermer nos écoles. C'est ce que nous avons fait », a confié le révérend Samuel Fonki. Le principal du collège, un enseignant et deux élèves, ne figurent pas parmi les otages libérés. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et les électeurs malgaches ont voté ce mercredi dans le calme pour le premier tour de la présidentielle. Il y a 36 candidats, dont 4 anciens présidents, parmi lesquels 3 sont donnés favoris. Le point avec Nani Talani.
D'après le ministre malgache de l'Intérieur, à la mi-journée, le taux de participation était de 40% dans la capitale Antananarive et de 68% à Toliar, la troisième ville du pays. On espère que cette élection sera l'occasion de consolider les acquis démocratiques, a déclaré le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne, Christian Preda. Pour éviter tout dérapage, le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakoto-Arissou, a exhorté les candidats à ne pas annoncer de résultats avant la Commission électorale nationale indépendante et à ne pas se déclarer vainqueur avant le résultat final. Les premiers résultats provisoires et très partiels sont attendus d'ici vendredi matin, mais la proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. Si aucun candidat ne l'emporte au premier tour, les deux premiers se retrouveront pour un second tour le 19 décembre.
En République démocratique du Congo, la question de la candidature unique de l'opposition à la présidentielle divise. 7 candidats de l'opposition comptent désigner un candidat commun au cours d'une réunion prévue à Genève. Des acteurs tels que Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe devraient prendre part à cette rencontre. D'autres partis d'opposition à Kinshasa sont en pourparlers depuis hier pour désigner leur candidat. Au Rwanda, 22 ans de prison sont requis par le parquet contre l'opposante Diane Rwigara. L'accusation a requis le maximum de la peine prévue par la loi, 15 ans pour incitation à l'insurrection et 7 ans pour contrefaçon de documents. Elle l'accuse d'avoir falsifié son dossier de candidature à la présidentielle de 2017. Sa mère encourt la même peine, 22 ans pour incitation à l'insurrection et incitation à des divisions dans le pays. La mère et la fille ont démenti toutes ces accusations. Leurs avocats ont dénoncé le manque de preuves. Le verdict sera rendu le 6 décembre. Près de 2 millions de personnes en Centrafrique ont besoin d'une action alimentaire urgente, a alerté l'ONU. Une étude menée en septembre a montré les pires résultats depuis 2014, avec 1,9 million de personnes sur les 4,5 millions d'habitants du pays dans le besoin, selon Hervé Verroussel, le porte-parole du PAM. Les conditions nutritionnelles en RCA continuent de se détériorer en raison de l'insécurité persistante, a-t-il ajouté. Et en Afrique, la pratique de l'excision sur les jeunes femmes est en forte baisse. Selon une étude publiée dans le British Medical Journal Global Health, l'ampleur de cette diminution varie d'un pays ou d'une région à l'autre, mais particulièrement importante en Afrique de l'Est. La prévalence des mutilations y était de 8% en 2016 contre 71,4% en 95. L'âge moyen à laquelle l'intervention est pratiquée avant le 10e anniversaire diminue lui aussi. Et voilà pour le journal.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et RSA Girondins pour vous présenter les dossiers du jour. Le ministre de l'Intérieur du Niger, Mohamed Bazoum, a indiqué la semaine dernière devant le Parlement avoir nettoyé les terroristes dans des villages dans la région de Tillaberi. Cette région du Niger et toute la zone frontalière avec le Burkina et le Mali connaît une recrudescence d'attaques terroristes depuis plus d'un an. Pourquoi un tel regain d'activité terroriste dans la zone? Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar. Il est spécialiste du terrorisme dans le Sahel.
Cette zone, elle est la zone de prédilection du groupe de l'État islamique du Grand Sahara et de El-Sahraoui qui veut contrôler toute cette bande parce qu'il a des groupes armés qu'il utilise comme sous-traitants. La zone qui va de la frontière du Mali en passant par le Niger et le Burkina. Du fait aussi que ces populations ont un problème avec les États concernés parce que selon beaucoup d'enquêtes établies par des services compétents, l'État n'a pas pu à un certain moment protéger ces populations-là, c'est pour cela qu'elles ont embrassé l'État islamique du Grand Sahara.
Alors récemment, le gouvernement nigérien annonçait notamment une opération de nettoyage dans la région. Qu'est-ce que vous en savez?
À notre connaissance, le ministre de l'Intérieur, au cours d'une interpellation à l'Assemblée nationale, a dit qu'il y a eu un nettoyage le long de la frontière entre le Niger et le Burkina. Mais nous, selon, il n'a pas dit en réalité, quel est le bilan, quelles sont les cibles qui ont été détruites par cette opération. Il a juste parlé de ratissage. Quand on sait que, quand on parle de ratissage, il y a toujours un bilan derrière. Et nous sommes un peu sceptiques par rapport à cette annonce du ministre de l'Intérieur du Niger.
Alors justement, après plusieurs mois d'activités intenses terroristes dans cette zone, on ne sent pas vraiment la réaction des forces sur le terrain, les forces nationales, mais aussi il y a le G5 Sahel et aussi les forces françaises.
Écoutez, ça fait un bout de temps que Barkhane dit que l'État islamique dans cette bande-là a été anéanti, mais c'est tout le contraire qu'on est en train de voir sur le terrain. Il est plutôt actif. Aujourd'hui, il se rapproche des grandes villes, il est non loin du parc du W, il y a des attaques par là. Il y a au niveau de la frontière avec le Niger, non loin à 200 km de Niamey, un peu partout, l'État islamique se rapproche des grandes villes.
Souvent, on a l'impression que les forces ne réagissent même pas à certaines de ces attaques, comme on l'a vu récemment à Djibo au Burkina Faso.
C'est un problème inhérent à toutes les armées ouest africaines. On n'a pas posé le problème depuis qu'il y a eu des morts. Est-ce que ces armées-là se sont retrouvées sur la table pour dire pourquoi on a autant de morts, faire le diagnostic, pourquoi nos soldats fuient, abandonnent leur position sur le terrain, pourquoi. Donc on ne le fait pas et à chaque fois on se retrouve avec des djihadistes qui viennent en moto et qui repartent avec des véhicules munis des armes collectives comme les 12-7 ou les 14-5 bitubes.
Moussa Aksar a été joint à Niamey au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, plus de 3 ans après l'accord de paix pour la réconciliation entre les groupes du Nord et le gouvernement malien, le processus de DDR a été finalement lancé hier à Gao en présence des autorités maliennes, des responsables des différents mouvements armés et des Nations Unies. Environ 1600 combattants affiliés aux mouvements armés seront désarmés et réintégrés. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Le processus d'intégration accélérée qui a été lancé ce mardi 6 novembre 2018 va durer 3 semaines et il permettra de désarmer les combattants du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Pour le président du DDR, la présence des responsables des différents mouvements à la cérémonie leur offre l'heureuse occasion de lancer le processus. Zahabi Oud Sidi Mohamed, président du DDR.
Ce premier segment aujourd'hui, c'est le lancement officiel qui a une très grande signification parce qu'il y a tous les membres des mouvements signataires de l'accord qui sont là, qui cautionnent ce processus par leur présence ici. Donc nous lançons le processus.
La représentante du secrétaire général des Nations Unies au Mali a martelé que malgré le retard accusé dans le processus, l'espoir est encore permis. Madame Baranga Garasaboué,
représentante adjointe
du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Ce moment est historique. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la volonté des Maliens et de toutes les parties maliennes de lancer ce processus de DDR accéléré et d'intégration dans les forces de défense et de sécurité. Cela a pris du temps, certes, mais il faut toujours agir au bon moment. La construction de la paix n'est pas un travail facile et vous avez effectué un grand pas en avant aujourd'hui. C'est le début de la création d'une nouvelle armée.
Le ministre de la Cohésion sociale a tenu à rassurer les différents mouvements. Lassana Bouaré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale.
Tous les problèmes seront abordés, traités avec équité, avec des solutions transparentes et dans un cadre de dialogue toujours renouvelé. Pour ce qui concerne l'État au nom duquel je parle ici, il prend l'engagement de faire face dans toute la mesure de ses possibilités à tous les défis liés à la mise en œuvre de l'accord, simplement parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays.
À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à Ag Abbas Ag Antalla, membre de la CEMA. Nous l'écoutons.
Pour nous, c'est dit tout parce que c'est un commencement des processus qu'on a des années et des années. Aujourd'hui, le processus est déclenché, je pense. Nous tous, il faut qu'on soit sincères pour aboutir à l'objectif attendu.
Il faut rappeler que le processus de DDR comprend 12 étapes certifiées par les différentes parties. Il va de l'identification du combattant à la remise de kit en passant par la visite médicale et le test militaire. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive à votre avis. Au Burkina, une quarantaine de volontaires se sont mobilisés pour réguler la forte circulation à Ouagadougou. Que pensez-vous de cette initiative? Estimez-vous que les automobilistes respectent le code de la route? Ont-ils assez de civisme au volant? Avez-vous des problèmes de circulation dans votre pays? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre page Facebook VOA Afrique. En République démocratique du Congo, les candidats de l'opposition à la présidentielle dénoncent l'usage des moyens et du personnel de l'État dans l'équipe de campagne du candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary. Eddy Sango a joint à Kinshasa le candidat Martin Fayulu.
Les institutions comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les CESAC, même le CESAC utilisé, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Le membre de CESAC qui sont dans l'équipe de Ramazani, comment ils vont réglementer les passages à la télévision? Comment ils vont réglementer les choses par rapport à leur mission? Comment le faire? Vous avez les chefs, les officiers de l'armée et de la police, dont l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui, lui, il est retraité, mais il est conseiller de M. Kabila. Et les conseillers, on le met là, quelque part, on lui donne une fonction.
Vous parlez des institutions d'appui à la démocratie. Si ces gens démissionnaient, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la tenue des élections au 23 décembre?
Mais ces gens doivent savoir ce qu'ils veulent. De toutes les façons, les nommer, eux, qui sont en fonction là, maintenant, vous dit exactement ce qui se passe. C'est que depuis longtemps, ces gens-là sont pour les Kabila. Donc tous leurs ajustements, tout ce qu'ils faisaient dans l'exercice de leurs fonctions, ils les faisaient en fonction des intérêts de M. Kabila. Et ça, maintenant, on a découvert le poteau rose. Donc quand on disait que toutes ces institutions sont inféodées, la CENI est inféodée, mais ils pouvaient aussi nommer les membres de la CENI. Mais simplement parce que les membres de la CENI sont déjà là, dedans. Parce qu'ils travaillent pour ces candidats.
À ce jour, vous n'avez toujours pas choisi un candidat commun, donc on vous accuse de ne pas être prêt.
Écoutez, nous sommes prêts. Les gens qui ne sont pas prêts, et vous le voyez, tous les candidats de notre côté ont présenté leur programme pour dire que nous sommes prêts. Nous avons déjà présenté le programme est ficelé et tout ça. Nous sommes dans l'étape de l'élaboration du programme commun. Ça, l'équipe a déjà travaillé, on n'a aucun souci pour ça. Mais maintenant, le FCC, il vous donne la liste des membres de l'équipe de propagande du candidat Chadari. Mais maintenant, ils se rébiffent. Ils disent que non, la liste qu'on a donnée fait dans la précipitation, on n'a pas consulté les gens. Maintenant, on va défaire la liste. Ça vous dit qu'ils ne sont pas prêts.
C'était Martin Fayoulou, candidat de la dynamique de l'opposition.
Morgane Guiriac en votre compagnie. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Les Américains ont notamment voté pour renouveler une partie du Congrès. 35 postes de sénateurs et l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants étaient en jeu. Ils devaient aussi élire les gouverneurs de 36 États. Quelles vont être les conséquences de ce vote? Quel va être l'impact sur la politique du président Trump? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Direction Ouagadougou, une association de près d'une cinquantaine de jeunes s'est donnée pour objectif de réguler la circulation. Ces jeunes volontaires veulent contribuer à réduire les accidents dans la ville. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Ouagadougou, carrefour du quartier Katria, l'un des six grands carrefours où est implantée l'association Faso One Village. Un regroupement de près d'une cinquantaine de jeunes, tous mobilisés pour réguler la circulation. Ousmane Sawadogo est le président de l'association Faso One Village.
Nous avons créé l'association pour réguler la circulation afin d'empêcher, pouvoir éviter qu'il n'y ait pas d'accident, prévenir les accidents, faire en sorte qu'on puisse éviter dans les différents carrefours, là où il y a le feu. Et c'est là-bas il y a les cas malheureux. Là. C'est pour cela que nous avons créé l'association. On travaille beaucoup. C'est-à-dire surtout ceux qui sont en moto ne respectent pas. Ils viennent le soir. Chacun s'arrête comme ils veulent. Et nous, nous essayons de réglementer à notre façon, hein, dans le test qui dit là, pour que les gens puissent s'adapter à ça.
Ces jeunes se répartissent par groupe de 5, par carrefour. Mais ici au Grand Carrefour de Katria, où le risque d'accident est élevé, ils sont 16. Leur travail est bien apprécié par les usagers de la circulation.
J'ai l'habitude de passer par là. En tout cas, on les voit, surtout quand il y a les délestages. On ne pouvait même pas passer par là, mais bon, avec leur travail, on rend grâce à Dieu.
Le travail, il n'y a pas de dérangement, ça va. Chez moi, en tout cas, ça va. Bon, les gens ne sont pas les mêmes. Les gens qui voient ça, même ça les emmerde. Oh, pourtant, bon, c'est bon.
Les efforts de l'association Faso One Village sont salués par la police municipale, également engagée dans la régulation de la circulation routière. Adama Pantamba est le chargé de communication de la police municipale de Ouagadougou.
Ce que M. Ousmane Sawadogo, à travers bien sûr son association One Village, fait pour la population de la ville de Ouagadougou est à saluer à sa juste valeur. Et d'ailleurs, nous encourageons d'autres citoyens qui peuvent prendre des initiatives dans notre domaine de la vie, de le faire, car ça ne peut que contribuer au bonheur, bien sûr, de la population de la ville de Ouagadougou. Nous faisons ce que nous appelons les statistiques en matière accidentogène de la ville de Ouagadougou. Depuis que M. Sawadogo, avec son association à ce carrefour là, nous avons constaté que alors le nombre des accidents à ce carrefour a drastiquement baissé, ce qui veut dire que son action, bien sûr, n'est pas vaine.
L'association, à travers son action, a déjà remporté des trophées et distinctions pour continuer à mieux faire. Selon la police municipale, plus de 6500 accidents de la circulation routière ont été enregistrés à Ouagadougou en 2017. Ces accidents ont impliqué plus de 7000 personnes et fait près de 100 morts. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Valemonde aujourd'hui, merci à l'équipe Michel Joseph, Sidrak Franklin, Raissa à la présentation. On reste connecté sur notre site internet. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.